Martin Petit, bienvenue au Frenchcast.
Ben, c'est un plaisir d'être ici. Merci de m'inviter.
Moi, je voulais t'avoir, ça fait longtemps, mais t'es occupé.
Oui.
T'as plein de choses que tu fais en même temps.
Je suis occupé et je protège beaucoup mon horaire.
Mais c'est bon, ça.
Ben, je pense
que
c'est...
Tu veux pas être stressé, tu veux être heureux.
Je pense que c'est bon. J'ai... Tu sais, moi, c'est John Cleese, des Python... Il donne une conférence sur la créativité, puis il dit, t'as deux choix. Si tu veux être créatif, il faut que tu contrôles deux affaires. L'endroit où tu écris, puis ton temps. Si tu contrôles pas ces deux affaires-là, tu seras jamais créatif. Fait que, tu sais, ceux qui s'imaginent être créatifs tout en allant au parc avec leurs enfants, ça marchera jamais. Tu contrôles rien dans cet environnement-là. Fait que là, moi, j'ai un bureau de création. Je rentre dans mon bureau, puis j'ai tant de temps. Puis c'est pas trop. T'sais, je me suis rendu compte que c'est pas trop d'avoir ça. Fait que des fois, faire un podcast, aujourd'hui, pour mille et une raisons, ça fonctionne parfaitement. Fait que c'est super, parce que je viens de finir un gros rush d'écriture. Mais si je suis en plein milieu d'un rush d'écriture, puis c'est souvent le cas, je peux pas faire... Ben, ni des podcasts, ni des entrevues. Fait que je fais pas de talk shows. Je me vois mal. Tu sais, j'ai des chums. Tu sais, Guy Jodoin me demande d'aller faire le tricheur. J'ai jamais fait le tricheur. Mais j'ai pas le temps jouer à... Je comprends même pas le jeu. Je suis seul au Québec qui comprend pas le jeu du tricheur.
Mais je pense que tu fais bien en choisissant qu'est-ce que tu vas faire avec ton temps, parce qu'à chaque fois que je te vois au bordel, tu sais, ça fait longtemps qu'on se croise,
oui.
Toujours un sourire, t'es toujours drôle, heureux, tu rentres dans le loge, puis t'as quelque chose à dire. C'est... Alors, t'es en bonne humeur, puis je pense que c'est à cause que tu contrôles ton horaire, puis tu laisses pas, tu sais, la négativité ou le stress de l'autre monde,
ouais,
qui vont mener à que toi, t'arrives stressé. T'es jamais stressé. Moi, je te vois à chaque fois, puis t'es heureux.
Ouais.
On niaise sur un sujet, puis... T'en vas, c'est,
ouais,
c'est toujours
assez,
drôle.
Ouais. Je suis assez heureux. J'ai pas tout le temps été comme ça, mais je suis assez heureux. C'est des belles années en ce moment. Tu sais, il y a eu des années en début de carrière où je disais oui à tout. Je faisais exactement le contraire de ce que je fais en ce moment. Je disais oui à tout. Puis j'étais comme déjà. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais comme le bouche-trou du showbiz. À un moment donné, quand ça a déclenché, là, je sais pas en quelle année, mais c'était la fureur. Puis là, j'ai reçu un appel à la maison, puis il m'appelle la journée même. Tu viendrais-tu à la fureur? Puis la journée même. Tu sais, tabarnouche, ça veut dire que je suis dans votre liste. Je suis dans votre liste de quand quelqu'un cancelle la dernière minute, on va appeler Martin, il va être disponible.
T'es sur la troisième liste.
Oui.
Il y avait d'autres listes avant toi, puis non, là, ils sont comme, si quelqu'un est mort...
Si quelqu'un meurt, là, il casse une vitre, il ouvre, il tire une manette, puis c'est mon numéro de téléphone. Puis là, il m'appelle. Là, ça a fait comme... C'est pas que ça me dérange. C'est pas, c'est pas que je veux faire le show, puis on m'appelle juste quand... Non, non. Il m'appelle, je le fais normalement. Mais s'ils sont dans la merde, lui, il est disponible.
Peut-être c'est à cause qu'ils ont confiance en toi.
Puis ça a fait comme, « Hey, attends une minute, non. » J'aimais pas d'être dans la... c'est comme si j'avais bien fait ma job de mettre disponible.
Ouais. Oh, ouais, très bien fait.
Je l'avais bien fait, puis là, je dis, « OK, je peux pas topper ça. » C'est comme à un moment donné, début des fins des années 90, à un moment donné, j'ai pas un problème d'alcool, là, mais j'étais dans un bar, dans la fin vingtaine, puis... Dans le voir, il y avait eu une compilation. Mettons, c'était le dossier les bars de cette année. Là, le dossier bar.
Ouais.
Puis il y avait plusieurs journalistes qui s'étaient départis à la job de c'est quoi toutes les bars sur le plateau de Mont-Royal. Puis dans deux articles, j'étais nommé comme étant dans la clientèle régulière du bar.
Arrête.
Mais dans deux articles signés par deux journalistes différents, tu sais, c'était pas comme une attaque. C'était comme le gars du bar avait dit ouais, il y a des artistes qui viennent. Martin Petit, c'est un rire. On t'a dit à me faire.
Il est toujours saoul. Puis
j'ai lu le journal, j'ai fait bon, ben moi, j'ai. Okay, c'est parfait. C'est le temps que je change de lifestyle.
Je reste chez nous.
On dirait que c'est dans la même année. J'étais trop disponible pour la fureur. Puis j'étais trop présent dans deux bars du plateau Montréal. Puis c'est que j'ai changé.
Ça, c'est quand même ridicule.
Oui, c'est ridicule. C'est pas chic.
C'est drôle. Ça, c'est un bon sketch.
Oui!
Parce que c'est pratiquement impossible que ça arrive à quelqu'un, c'est d'une autorité. C'est ben, drôle.
J'étais le seul qui était nommé deux fois dans deux bars. Puis je pense qu'il y avait trois artistes de nommés dans tout le journal. Fait que, tu sais, c'était comme... Tu sais, on parle des années, les grosses années d'Éric Lapointe, là. Il est zéro nommé.
Puis lui, il était vraiment...
Lui, c'est la moitié du chiffre d'affaires du plateau Mont-Royal. Moi, je sais pas pourquoi. Ben, je sais pourquoi. C'est parce que je suis grand, j'ai ma face. Fait que si je suis dans un endroit, les gens me remarquent, même si j'étais là une demi-heure.
Ouais, puis
je pense que ça jouait contre moi.
Parce qu'il peut te parler. Éric Lapointe, tu sais jamais.
Ben, Éric Lapointe, il est petit, premièrement, ça te prend une heure et demie avant de savoir qu'il est dans le bar. Fait que là, tu sais, tu peux ne pas le voir, parce qu'il est plus petit. Fait qu'il faut que tu arrives face à face.
Tu sais, c'est où la première fois que je l'ai vu? Puis j'exagère pas. J'avais terminé, tu sais, la soirée GHB.
Oui.
C'est une soirée, c'était nice, on est dehors. Il y avait quelqu'un qui était par terre, puis je cherchais un taxi. Puis Jeff était comme, ah, tabarnak, il est toujours là. Puis j'étais comme, c'est qui, lui? Moi, je pensais que c'était une sans-abri.
Ouais.
Puis une taxi van vient, il rentre dedans, il est tout fucké. Puis il dit, tu sais pas c'est qui? Puis je dis non. Il dit, c'était Éric Lapointe. Puis il dit, arrête de niaiser, bro. C'est un sans-abri, il était par terre. Il dit, non, c'est Éric Lapointe. C'était juste mardi pour lui. C'est juste normal. Puis j'ai comme, arrête, tu niaises? Il dit, non, on le voit tout le temps. Il est soupir par terre. J'ai comme, c'est incroyable. C'est incroyable.
C'est ça. Elvis, au moins, Elvis avait 12 gars qui le suivaient. Fait qu'il se ramassait pas dans cette situation-là.
Oui, il a besoin d'un entourage, c'est ça?
Oui. Elvis, il y avait un entourage de Yes Men qui le ramassait quand il...
C'est notre Elvis, c'est ça?
Ben, c'est pas mal notre Elvis.
Oui, c'est notre Elvis.
C'est notre Elvis, c'est juste que... C'est ça. Tu sais, Elvis, il est mort. Sa bol de toilette à 45 ans.
Brag.
Tu sais, t'es pas... Il consommait.
Tu penses? Tu penses, Martin?
Il consommait, mais il était entouré de... 12 gars qui disaient tout le temps, c'est correct.
Ça, c'est pire.
Moi, j'avais lu qu'il mangeait à la fin. Il allait tout le temps manger avec ses chums. C'était un genre de Subway. Il prenait un sous-marin. Puis c'était juste des slices de bacon avec de la mayonnaise. C'était ça, la recette du.
C'est juste ça?
T'sais, il mangeait comme l'équivalent des calories d'une personne pendant un mois en un snack.
Puis c'était. Oh.
Puis tous ses chums font comme. Ils sont payés pour faire cette face-là.
T'es le roi, tu peux faire n'importe quoi.
C'est ça. C'est le problème avec la culture américaine, c'est quand t'es riche, t'es tout le temps entouré de monde qui font.
C'est quoi le problème?
Ben oui. Fait que là, tout le monde devient fou.
Mais oui, c'était ça l'histoire avec Lizzo. En plus, tu connais Lizzo?
Tout le monde qui font.
Son entourage, non, c'était pire. Elle apparemment était vraiment agressif avec ses danseuses qui étaient en bonne santé.
Oui.
Puis il est forcé à manger. Puis t'es comme, c'est quoi ça? Tu penses que t'es meilleur que moi? Puis comme, mais je dois danser. Oui. Je peux pas peser 350 livres. C'est impossible. Mais tout le monde donnait de la nourriture trash à Lizzo. Puis t'es comme, ouais, c'est d'accord, elle doit manger des Twinkies. Tu veux la tuer?
Oui.
Ça se peut pas.
Ouais. Il y a uniquement ça dans la culture, dans le showbiz.
Mm.
C'est vraiment. Je serais curieux d'un autre meilleur exemple que le showbiz.
Toi, tu t'éloignes-tu?
Pour avoir une culture de tout croche, là. Le showbiz, c'est les meilleures histoires.
Mais quoi, comme beaucoup d'humoristes que je connais, oui, t'es dans le showbiz, mais t'es pas dans. Comme, c'est comme si tu as trouvé une manière de t'éloigner. Tu fais ta job, mais tu n'es pas un gars de showbiz. On connaît des gens de showbiz.
Ouais.
On n'est pas ça. Puis toi, tu n'es pas ça du tout.
Non.
Puis, tu sais, Mike n'est pas comme ça. Il y a plein d'humoristes que je connais qui sont dans le showbiz, mais ils ne sont pas showbiz. Ouais. As-tu pensé à ça? C'est-tu quelque chose que conscient? Ou c'est juste que ce n'est pas dans ton caractère? Alors, tu sais c'est quoi ta job? Puis tu veux une vie de Martin Petit? Tu ne veux pas une vie de showbiz?
Je sais. C'est pas que je veux pas ou je veux ça, mais tu sais, moi je pense que tu t'en vas dans le showbiz, en tout cas, rapidement. Moi, c'est ça. Beaucoup d'hésitation dans ma réponse, mais pour donner une bonne réponse, moi j'ai eu la chance en commençant. Mon meilleur chum, c'était Michel Courtemanche. Fait qu'en commençant, puis je suis plus jeune de Michel de 4-5 ans, fait que je suis ami avec Michel, puis Michel, c'est peut-être un des débuts de carrière en humour les plus fulgurants puis les plus rapides de l'histoire de l'humour. J'en connais pas qui ont été plus haut aussi vite que Michel Courtemanche.
Ça a pris combien de temps?
Un an et demi, 2 ans... En dedans de 2 ans, je pense. En dedans de deux ans et demi, il est sold out à l'Olympia de Paris.
OK, ouais, ça c'est très vite. Ça se fait pas.
Même, tu sais, c'est 5 fois plus rapide que Rachid ou n'importe qui était là en France après. T'sais. Fait qu'avec ça, l'argent puis tout ça. Puis le fait que Michel soit bipolaire, donc il revenait. Puis tu sais, quand t'es bipolaire, t'es malheureux. T'sais. Fait que rapidement, je voyais que, si en tout cas, si tu entretiens l'illusion que ce métier-là peut te rendre heureux, moi, je suis rentré avec tout de suite, j'avais la preuve que avoir l'Olympia 100 soirs sold out, ça ne rendait pas quelqu'un que je connais très bien heureux. Il restait profondément insatisfait de la vie puis tout ça. Fait que je voyais... J'avais l'exemple que le showbiz te rend pas heureux. Fait que dès le départ, je suis rentré là-dedans. Je savais qu'il n'y avait pas d'attente à avoir du showbiz pour réparer quoi que ce soit qui était brisé en dedans de moi. Je savais que si j'allais réparer des affaires en dedans de moi, ça allait être ailleurs que le showbiz. J'allais pas demander au showbiz de me réparer. Fait que dans ce temps-là, peut-être que tu investis moins psychologiquement en rentrant. Parce que tu peux faire, puis ça a du sens, si tu as un autre exemple différent, parce qu'il y en a qui disent, bon, moi, je suis heureux parce qu'ils sont connus qu'ils sont heureux, puis tout ça. Fait que là, tu peux dire, ah, moi, c'est un médicament-là, je le veux. Puis là, tu investis psychologiquement beaucoup dans le showbiz. Puis là, tu saignes du nez 15 ans après, puis là, tu fais comme, ben ouais, mais c'est pas ça que ça m'a donné. Tu sais, j'envie beaucoup ceux qui rentrent là-dedans. Avec, tu sais, un bon background. Je le vois. Ceux qui arrivent, là, ils ont un bon background familial, ouais. Bien des amis, bien groundé. Souvent, les gens qui ont l'avantage de venir de petits villages. Fait qu'en plus, quand ils retournent à leur village, c'est tout du monde groundé, qui sont pas sont impressionnés, mais peut-être de la bonne façon.
Ouais, ouais.
Bravo, ça marche en ville.
Ils sont plus excités et fiers.
Ils sont fiers, ouais, de toi, mais ça leur enlève rien parce que ça, à aucun moment, c'est quelque chose qu'eux autres veulent faire. Puis ils te prennent pour ce que t'es, puis ils t'aimaient avant que tu partes. Tout ça, là, c'est un cadre-là. Je pense que c'est des conditions gagnantes pour rentrer dans le showbiz. Parce que t'es capable de tout de suite voir que... Moi, je connais beaucoup de monde, justement, qui arrive de région puis qui arrive dans le showbiz... Puis qui font comme, oh wow! Tu sais, qui se demandent s'ils vont rester là-dedans parce que c'est tellement. Je dirais pas toxique, mais tout croche. Puis tout croche, puis je réalise que c'est un tout croche nécessaire aussi.
Comment ça?
Parce que on est à la limite. Tu sais, les artistes, on travaille à la limite des choses. Fait que ça peut pas. Les choses sont stables au centre, jamais aux limites. Puis c'est là qu'il faut que tu fasses ta patrouille.
T'as comme raison, artiste. Hein.
Fait que les artistes, on est tout le temps comme en train de patrouiller sa limite tout le temps. Fait que c'est comme si on est des soldats, mais nous autres, on n'est pas dans la cuisine. On est comme... On check. voir si est-ce qu'il y a des barbares qui arrivent, tu sais. Puis là, s'ils arrivent, t'es tout seul. Puis, tu sais, tout ça, là, c'est ce qui se passe au Fringe, c'est nous autres. Fait que c'est le fun de temps en temps revenir au centre. Puis ceux qui ont des villages puis des familles, c'est ça, ils reviennent. Bon, ils se réchauffent. Puis après ça, ils retournent.
Recharge.
Ouais. Sur la limite. Mais le showbiz, c'est tout du monde. C'est tout le temps à sa limite. Fait que si t'es tout le temps là, puis tu te tiens juste avec du monde, tu sais, à un moment donné, ça devient brouillé. Ça brouille les cartes. Puis faut. Pis c'est ça. Je pense qu'il y en a qui perdent la carte. Puis malheureusement, c'est un métier que. Éric Lapointe, c'est un bon exemple. Si t'es pompier, puis t'as un problème d'alcool au point, à ce point-là, que t'es à terre. Puis il faut te ramasser. Tu sais, troisième journée à caserne, les gars te font une intervention, là. Puis ils font comme, man, on peut pas aller éteindre un feu avec toi. Tu bois, tu gars, va cleaner ton affaire, puis on va t'aider.
T'as perdu trois chats à cause de toi. Hein.
C'est ça. Il y a trois chats morts, là. Il y en a deux. Il y en a un qui est handicapé. Fait, gars, tu vas aller t'en occuper.
Il y en a un quatrième qui t'a brûlé parce qu'il était trop chaud.
Il a brûlé. Fait que, tu sais. C'est ça, le pompier, rendu au mercredi, il y a une intervention.
Ouais.
Éric, lui, 15 ans après, c'est encore « Ah! » Moi, quand j'entends « Ah, ben lui, tu sais, Éric, c'est Éric. » J'ai entendu ça un milliard de fois, tu sais. « Ah, lui, ah, ben lui, c'est lui. » Tu sais, c'est comme lui, il est abandonné.
Quelque t'sais, chose qui n'est pas cool.
Ils ont dû dire Elvis, c'est Elvis. Ils ont dû dire ça 10 ans avant que le gars meure de façon précoce.
C'est intéressant. Qu'est-ce que tu viens de dire qu'il est abandonné? Parce que si on pense à ce que Eric a donné culturellement puis des bonheurs à tout le monde,
oui.
Ça devient la dernière personne qu'on abandonne.
Oui.
Mais tu as raison, à cause qu'il est dans ce domaine-là, c'est comme, ah ouais, on le laisse.
Ben, c'est devenu un personnage dans notre tête. Ouais. On l'a objectifié puis on a oublié de m'en. Ben non, mais il mérite d'être aidé comme tout le monde mérite d'être aidé. Puis des fois, aider quelqu'un, c'est d'être pas gentil avec, de pas lui dire ce qu'il veut entendre. T'sais. Sauver quelqu'un, c'est de dire...
La vérité. Fois,
c'est ça. Arrête de manger, arrête de boire, arrête de prendre la drogue. Je sais que tu veux pas l'entendre, mais on va te le dire. Puis dans n'importe quel autre métier, tu peux pas être un comptable puis arriver, ou un notaire arriver à 3 heures de l'après-midi en disant « Je me suis couché tard, c'est
ça
fini.
Serait... »
C'est...
un médecin, ça serait le pire. Il rend tout fucké.
Un dentiste.
Un dentiste, ouais. Puis ses yeux sont fermés.
Ouais. Puis il te le dit. Il dit, ouais, hier. Yeah. Oh! Puis il te raconte ça pendant qu'il te joue dans la gueule. Il te raconte sa soirée de.
Puis il freeze à un moment, tu sais.
Ouais. Puis il te pique. Puis il se pique.
Oh. Ouais, ils prennent la gaz.
Explique un peu, s'en envoyant.
C'est fun, c'est drôle, c'est cool. Puis t'es comme, tabarnak, qu'est-ce que je fais avec
qu'est-ce
ça?
Qu'est-ce que je fais là? Ben, c'est ça, fait que ce métier-là, c'est un métier qui est condamné à être toujours un peu... T'sais, le but, c'est que pas... T'sais, hein? C'est ça, le but, parce que t'es dans la création. Fait que quand t'es dans la création, la mission aussi qu'on a, c'est de... créer quelque chose que les gens n'ont jamais vu ou entendu. Fait que c'est sûr qu'il faut aller...
loin.
Ouais. Il faut aller loin pour aller chercher ces idées-là. Il faut aller sur la limite des choses. Fait que faut que tu pognes tes affaires puis tu t'en vas. Moi, je m'en vais là, puis c'est ça, gang. Puis oui, je travaille avec du monde, ils sont tous fucked up, mais c'est là qu'on travaille, nous autres.
Ouais. Je l'ai jamais pensé comme ça, mais c'est intéressant de le mettre dans ce contexte-là. Parce que je pense à les limites, puis je pense, hey, je veux toujours tester quelque chose, puis voir si on peut aller là. Mais de le voir comme ça, comme, tu sais, on est des soldats, puis on patrouille, c'est quelque chose d'intéressant de le voir comme ça. C'est une bonne bande dessinée.
Oui, c'est ça. C'est un bon exemple, c'est pas un exemple parfait, mais ça aide à comprendre. Que t'as pas le que c'est ça, quand tu vas patrouiller
c'est dangereux.
À la frontière de n'importe quel pays, puis là, nous autres, c'est notre univers, il est culturel, mais tu vas patrouiller à la limite. Fait que là, on va jouer. C'est pour ça qu'on aime ça, jouer avec des idées qui sont la limite, puis des affaires à la limite, puis jouer on peut pas se faire reprocher d'avoir les deux pieds sur la ligne. C'est là qu'on travaille. Après ça, c'est comment qu'on se comporte quand on est sur la ligne. C'est ça l'affaire.
Toi, je vais pas le dire parce que
c'est
je veux pas...
C'est pas parce que t'es sur la ligne que tu fais bien ta job.
Non, pas du tout. On a déjà vu ça.
C'est ça.
Mais toi, je veux pas brûler le joke.
Il y en a qui confondent ça.
Mais t'avais récemment, je sais pas si ça fait quelques semaines que je t'avais vu faire ça. Je vais pas donner de détails, mais à propos de l'Outremont, c'est de quoi je parle?
Oui, oui.
Ah, oh, c'était bon. Puis quand moi, je te voyais, tu buildais ça. Puis avec le punch, quand tout le monde rentrait, puis comme, oh, tabarnak, c'est vrai. J'étais comme, fuck, ça, c'est une bonne gag. Parce qu'il y a d'autres gens qui veulent même pas aborder de proche ou de loin ce type de sujet-là. Mais toi, t'es comme, j'ai un fucking angle sur ça. Puis c'était un bon angle. Puis quand j'ai vu qu'au début, le monde y hésitait, puis toi, t'étais confiant, t'es comme, je vais vous avoir.
Ouais.
Oh, c'était magnifique.
C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun d'avoir un sujet que tu le sais, que tu crées un petit peu de peur chez le spectateur. Puis après ça, la relation de confiance est écœurante parce que si j'ai eu peur où tu t'en vas, là, je dis « Oh non, tu sais. »
C'était vraiment ça dans la salle.
Puis là, ça marche. Puis là, tu fais « Ah, OK, donc, ben mais maintenant, je suis obligé de te suivre la prochaine fois. »
Ouais.
Fait que là, t'as confiance. Il y a une confiance qui vient de s'installer.
Bien expliqué, ouais.
C'est ce qui est le fun. Fait que quand tu fais un one-man show, si tu réussis ça rapidement dans le show, je vais prendre un sujet et tout le monde fait « Ah non, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, tu vas l'échapper. Tu » sais. Puis là, ça marche. Je me rappelle, je faisais le micro de feu. Puis d'ailleurs, je faisais un clin d'œil à Mike. Tu sais. Je racontais avec l'histoire que j'étais allé voir le show de Mike, le show d'avant de Mike. Puis, tu sais, il parlait de sa mère qui était morte. Qui est toujours morte. Elle est morte. Puis là, il parle de sa mère. Puis c'était comme un bout de touchant dans le show, tu sais. Fait que là, après le show, Mike, il me dit, puis, comment t'as aimé? Je dis, c'est super bon show. Puis là, il me dit, le bout de ma mère, tu sais, c'est touchant. Puis là, j'étais là, oh, oui, c'est touchant, mais c'est ta mère. C'est arrivé. Tu sais, j'espère que c'est touchant. Tu sais, c'est pas une prouesse d'acteur.
Ouais, non.
Tu sais, je trouvais ça plate de dire à Mike, tu sais, t'es drôle, Mike. Mais c'est pas une prouesse d'acteur, là. C'est ta mère. J'espère. C'est touchant. J'espère que tu rates pas ce moment-là. Fait que là, je fais ce joke-là dans le show, j'en parle en disant, moi, je ferais pas de moment touchant. Dans le fond, c'est une piste que j'installe, une perche au début du show, en me servant de l'exemple de Mike. Pour une heure et demie après, je raconte l'histoire, je parle de suicide, puis je raconte que moi, ce que j'ai vécu au secondaire, tu sais, c'est ça, tu sais, il y avait un gars, puis là, à la fin des classes, on le cherche, ou, tu sais, puis là, on cherche, puis je m'en vais dans le gymnase, puis les lumières sont fermées, mais je vois de quoi, j'allume les lumières. Je dis, il est là. Tu sais, il se crosse, puis il me regarde en disant, il n'y aura pas de bout de triste dans ton show. Fait que là.
C'est parfait.
On a peur. Puis là, mascotte, le soir de la première, mascotte, il a pas entendu le gag. Parce qu'il se disait justement, oh non, qu'est-ce qu'il fait?
Puis il voulait pas entendre
ça. Il dit, ça va bien. Il dit, c'est drôle depuis le début, pourquoi il parle de son chum? Puis lui, il a blackouté sur ce qui est en train de se passer. Il dit, fuck, il vient d'échapper son show. Il parle d'un gars qui s'est suicidé. Il a pas entendu le release. Tout le monde se marie, mais là, comme, qu'est-ce qu'il. Il a vraiment. Lui, il a blackouté avant que je me rende au punch.
Parce qu'il pensait à toi.
Il pensait à moi, puis il dit, Chris, ça va trop bien. Oh, fuck. Puis c'est 5 minutes avant la fin. Fait que là, il était comme... Une panique!
Tu sais comment j'aime ça?
C'est drôle, ça.
Que t'as setupé ça dès le début.
Ouais.
J'apprécie ça, tu comprends pas. J'adore les heures de stand-up que les callbacks sont pas juste un mot, sont un concept, sont... Ah, oh, tabarnak! Je savais même pas qu'il me setupait, ça fait 4 minutes, tu sais.
Ouais.
C'est les types de callbacks que j'adore.
Il y avait un film que j'ai vu qui a dû me marquer quand j'étais au cégep, c'était The Revenge of the Killer Tomato. Il y a un des pires films de l'histoire qui s'appelle The Killer Tomato.
Un des pires titres.
C'est des tomates sur des skateboards. Puis qui... C'est un vrai film.
Ouais, ouais, je te crois.
C'est des grosses tomates, puis ils roulent sur le monde, puis le monde est là. Puis il y a du monde qui ont fait, c'est tellement poche, ce film-là, on va faire la suite de Revenge of the Killer Tomatoes.
Quand quelque chose de poche, c'est ça que tu dois faire, la suite.
Oui, la suite d'un mauvais film. Je l'ai jamais réécouté, mais j'ai été marqué, puis dès le début du film, ça se passe dans une pizzeria, dans un monde où tout le monde a été attaqué par des tomates. Donc, les pizzerias, il n'y a pas de sauce tomate dans aucune pizza parce que les gens ont été traumatisés de se faire attaquer par des tomates. Fait que c'est logique. Là. C'est un monde où toutes les pizzas sont pas mangeables parce qu'il n'y a pas de sauce tomate.
T'as besoin de ça.
Puis là, ça se passe dans une pizzeria au début, puis tu vois le gars, il flippe la pizza, puis il jase à l'autre, puis il la flippe, puis l'autre dit « Hey! » Il dit quoi? Puis là, il se met à parler. Puis ton cerveau fait comme « La pizza, la pizza, la pizza, la pizza! » Puis il passe à une scène suivante.
OK, OK.
Fait qu'il se passe d'autres choses, puis là, tu suis l'histoire. Puis une heure et demie après le film, il reçoit la pizza. Hey, écoute, t'es plus là, là. Ça fait longtemps que t'es plus là. T'as oublié la pizza. Il ramène la pizza une heure et demie après. Là. C'est tellement satisfaisant, là, j'ai fait « Ah, oh, wow. » C'était écœurant, ça. Il y a des callbacks poches, mais il y a des bons callbacks.
J'aime ça.
Des bons callbacks. Je t'ai montré, c'est ça, c'est qu'il m'a montré qu'il a lancé la pizza. C'est ça que j'apprécie. Puis il a fait confiance au film que je vais l'avoir oublié, la pizza.
Puis il avait raison.
Fait que là, c'est le feeling qui est trippant de ça. C'est « OK, fait que pendant une heure et demie, c'est toi qui contrôlais mon cerveau. » Ça, c'est un break. C'est ça que je veux quand je veux être entertained. Là.
Ouais.
Je veux que quelqu'un prenne contrôle de mon cerveau puis qu'il me leur donne pas magané. Mais pendant une heure et demie, je fais « Mais qu'est-ce que il m'a déjoué à tous les niveaux. » Puis l'humour, je pense que, sérieux, c'est le challenge qui est le plus cool en humour, parce qu'il y a deux façons de pas aimer un show d'humour. T'es soit trop épais ou trop intelligent.
Oh, ça, c'est intéressant.
Si t'es trop intelligent...
Et tu vois qu'est-ce qui se passe?
Tu vois tout ce qui va s'en venir. Puis tu sais qu'à chaque pause, ce sera peut-être... Tu peux pas caler le mot exact, mais tu sais que ça s'en va dans cet environnement-là, puis tu cales toutes tes affaires parce que t'es tellement vite. C'est une bonne raison de ne pas trouver ça drôle.
Ouais.
Ça veut dire que l'artiste n'est pas assez challengeant pour toi. Ou tu es complètement con, puis tu comprends pas le raffinement de la structure d'une blague, puis tu es perdu parce que tu es au premier niveau. Pis...
C'est quoi ça? Pourquoi la pizza est tombée? C'est quoi ça?
C'est quoi le rapport?
Ouais.
Tu as oublié qu'il l'avait lancé. C'est quoi il a reçu? C'est pas la même pizza. T'es pas là, ouais. C'est ça.
Puis on a des gens dans le public qui sont comme ça, des fois.
On a tout le temps des gens comme ça. On a les deux dans la salle tout le temps.
Tout le temps, ouais.
On a tout le temps les deux dans la salle. Fait que c'est pour ça que tu peux pas aimer tous les humoristes, parce que il y a personne qui a le même niveau d'intelligence puis la même rapidité d'esprit. Fait qu'il y a des humoristes que tu fais comme... Non, c'est trop facile pour moi. Puis il y a du monde qui sont comme... Puis tu remarqueras que ceux qui sont très habiles, ceux qui font des jokes pas très complexes parlent rapidement. Parce que c'est l'outil que tu peux trouver pour... Ouais, si je le dis lentement, tout le monde va deviner ma joke.
Ouais.
Mais si je le dis vite, puis j'en enchaîne 24, je t'en avance sur toi parce que je vais trop vite. Fait que là, puis c'est effervescent, fait que là, tu fais rire tout le monde.
Ouais, c'est vrai, hein?
Mais il y en a qui, avec le même matériel, s'ils changent leur vitesse, c'est fini.
Moi, j'aime ça, parler lentement.
Toi, tu parles lentement parce que toi, t'as des affaires qui sont... Tu sais que personne va le deviner. Puis si on le devine, on le savoure d'avance. C'est-à-dire que des fois, j'ai remarqué que toi, tu vas créer des rires avec des... Voici, je te donne ça, 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 ça. Qu'est-ce que ça va donner? Puis là, tu ris parce que, oh non, ça va donner ça. Puis tu dis, ben oui. Tu sais, mais t'as donné tous les éléments. Puis là, ou ben non, t'as un 180, puis tout le monde fait...
What the fuck?
Ouais. Puis parce que tu as pris ton temps, tu recules le ressort longtemps. Fait que là, tu as un release.
C'est ça que je me suis aperçu que quand je prends mon temps, c'est plus drôle. Ça devient beaucoup plus drôle. Puis j'ai comme, j'ai pas besoin de courir au punch. Le monde préfère ça quand je prends mon temps.
Parce que tes setups sont étranges aussi.
Ouais.
Tes setups sont vraiment étranges. Fait que tu peux pas.
C'est vraiment une bonne description. Ouais.
Tes setups sont rarement banals. Fait que tu peux pas faire comme, ouais, c'est ça. Fait que j'étais au Tim Hortons puis tout ça. Non, ton setup, ta prémisse est étrange. Fait qu'il faut que tu nous l'expliques. Puis on est déjà crampé parce qu'on se dit, ah, OK, il est pas
d'ici,
lui. Je fais pas référence à mon quotidien, mais zéro.
Zéro, ouais. Oh, je voulais te demander, je vais pas oublier. Sais-tu les pêcheurs que tu avais vendus à Netflix pour qu'ils font ça en anglais?
Oui.
C'est ça. Les anglophones, les Américains, comment est-ce qu'ils ont su du concept? Comment est-ce que tu as... Ça, c'était fascinant pour moi. Je pensais à quelqu'un qui ne comprenait pas la langue, mais était comme, fuck, that's a good idea. Comment est-ce qu'il...
Ouais, c'est weird.
J'avais ça comme
c'est vraiment un drôle de chemin. C'est un drôle de chemin. Ben, mettons, le plus simple, c'est que grâce à Starbucks, j'ai écrit le film québécois qui s'appelle Starbucks, hein? Qui est devenu Deliveryman aux États-Unis. Puis ça a fait en sorte que j'ai eu un agent à Los Angeles. J'ai un agent à Los Angeles. Et lui, après ça, puis j'ai un agent, puis j'ai approché cet agent-là parce que j'avais les pêcheurs. Oui, c'est ça. Et ce qui est arrivé, c'est ça. C'est que j'avais les pêcheurs, la première saison des pêcheurs. Mettons. Puis cet agent-là, c'est un gars de Montréal.
Alors, il bilingue.
Il connaît un... Mais qui vit là-bas, là, tu sais. Mais il sait... Mais qui, contrairement à plusieurs Américains, sait qu'il y a une culture au Québec. C'est pas
tout le monde qui sait ça.
Loin de là. Fait que, qu'il y a une culture et que les gens vivent là, au Québec. Là. Très peu d'Américains à Los Angeles pensent qu'on en vit. Là, fait que c'est pas très crédible.
Eux, ils comprennent pas que le Canada existe.
Oui, c'est ça. mais ils savent qu'il y a aucun. Il n'y a pratiquement pas de culture canadienne parce qu'ils travaillent avec des Canadiens qui sont des expatriés. Fait que quand tu as des expatriés, ça veut dire qu'il se passe rien.
Ouais.
Fait que dans leur tête, eux autres. Le Canada n'a aucune crédibilité culturelle. Fait que tu t'imagines de leur dire que il y a une sous-culture dans le Canada, mais eux autres, ça va bien.
Ouais, oh,
bizarrement.
Ils vont pas comprendre ça.
Ils peuvent le comprendre si tu leur expliques, mais dans les faits, dans leur tête, ce qu'ils voient, c'est flou, là. Ouais. Puis ils font comme ça marche, ouais. Parce que les standards, nos standards, c'est pas leurs standards. Ouais. Fait que tout ça pour dire que. Pis c'est vrai que les pêcheurs, tu sais, les pêcheurs, pour moi, j'étais un kid de la télé américaine. Fait que j'étais un kid de Seinfeld. Puis, fait que d'avoir un concept qui est une variation de toutes mes influences américaines, intéresser les Américains, je ne l'avais pas vu venir. Parce que le premier call que j'ai eu, c'est une des rencontres que j'ai eues avec. Tu sais, j'ai juste la saison 1 des pêcheurs, tu sais. Qui marche très bien au Québec. Puis là, on fait traduire 2-3 épisodes, sous-titrés. C'est tout ce qu'on a, je pense, comme matériel. Puis là, il y a un call dans une des grosses agences puis pour envoyer des queues à du monde qui cherche des projets. Puis, fait qu'il y a un agent là-bas qui fait comme une bonne job de dire... Oui, du monde qui cherche. Il y a tout le temps du monde qui cherche des projets. J'ai dit, bon, mettons ça, là. Puis Jason Alexander est en train de tourner un pilote. Puis son agent reçoit la proposition des pêcheurs. Elle regarde l'épisode sur le web, là, tu sais, traduit, puis tout ça. Mais elle fait comme, ah, non, t'es en train de tourner un pilote. Pendant qu'il tourne le pilote, elle regarde est dans le studio là, où il tourne le pilote, puis elle fait comme non, ça ne marchera pas ce projet-là. Tu sais, genre, j'aime pas la vibe. Elle sort dehors, elle pogne le téléphone, elle dit les pêcheurs, là, si tu. Y a-tu quelqu'un d'attaché après ça? Non, 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 non. Parfait, je veux parler à. Fait que le lendemain, je suis en Zoom avec Jason Alexander.
Avec George Costanza.
George Costanza.
Oh shit!
Yeah!
Oh, moi, oh, tu vis mes rêves.
Écoute, je savais pas comment le vivre. J'étais comme. Tu sais, je peux pas braguer ça. Tu sais, j'ai appelé un de mes chums, puis il dit: ah ouais. Avec Vandelay.
Ouais, ouais, c'est ça. Avec Vandelay Industries, tu parlais.
Puis là, j'avais mon téléphone, puis j'essayais de. Je veux pas avoir l'air d'un pingouin, mais j'essayais de prendre une photo du Zoom. Juste, on va prendre une photo au moins du Zoom, sinon j'ai l'air d'un menteur.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Puis j'ai Jason Alexander qui est hyper charmant, tu sais, puis qui me dit: hey, écoute, je trouve ça super bon, mais tu sais, c'est comme. Tu sais, les pêcheurs, c'est comme. C'est un loop de Seinfeld. C'est comme si, un écho de Seinfeld. C'est comme si moi, je suis un stand-up, puis je fais des choses avec des stand-up. C'est comme une variation. C'est une variation de l'idée de Seinfeld que je te renvoie. Puis là, tu fais: ah, c'est bon. Ben oui, mais ça vient de vous autres. En tout cas.
Mais quand ça vient de lui, ça, c'est un compliment qui. Il n'y a pas un niveau à ça. Ça, c'est incroyable.
Ben oui.
Moi, si c'est toi, man, j'aurais commencé à pleurer.
Man, il est dans la famille royale, tu sais. Ouais, fait que là, prends l'avion, va travailler sur l'adaptation avec Jason, puis un writer qui a travaillé sur Arrested Development. Fait que j'ai vécu une expérience professionnelle intéressante, puis... Le plus drôle, c'est qu'on est allé pitcher partout. Puis ça, pourquoi je pense que ça n'a pas marché, cette façon-là de packager les pêcheurs, c'est qu'ils ne voulaient pas être à ABC, NBC. Toutes les networks, ils ne voulaient pas. Lui, il voulait être sur les câbles.
HBO.
Parce que les câbles, ils prennent 10 épisodes par année. Puis les NBC, ils prennent 22 épisodes. Puis lui, il avait vécu Seinfeld à 22 épisodes à l'année. Puis... T'as plus de vie, c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait. Puis il fait de la tournée, il y a deux shows en tournée. Fait qu'il dit: moi, c'est pas ça que je veux vivre. Je veux pas 22, mais son crowd est là. Sa crowd naturelle, c'est NBC, whatever. Fox, c'est moins niché, tu sais. Fait que nous autres, on est allés pitcher, puis la façon que ça se passe, tu sais, au Québec, la grosse différence avec le Québec, c'est quand tu pitches un projet, si tu pitches un projet à TVA, mettons, ils font comme un, puis ils s'assoient dessus. Puis là, il étire le concept. Tu peux être à TVA pendant un an et demi, puis ça se développe lentement. Mais ils sont assis sur toi, là. Ben ouais, puis là, ils disent: ça va, ça va bien. Mais tu peux pas pitcher à d'autres mondes. Ça marche pas. Là-bas, tu pitches à tout le monde en une semaine. Puis le vendredi, tu sais que si toi, tu le prends pas, puis il y a quelqu'un qui va le prendre. Fait que quand tu dis « je le prends pas », t'es pas sur le bac pendant 7-8 mois, là. C'est comme pendant une semaine. Fait que j'ai fait ça. J'ai fait le pitch à toutes les stations. Puis ça se passe. On est toute la même gang dans le char. Puis on s'en va tout, tic, 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 puis on les fait toutes, tu sais. Puis moi, t'as vu dans Seinfeld, l'épisode où t'as Seinfeld puis George qui pitch. Je suis à Fox avec George, avec Jason.
Oh, bro, c'est vrai!
On pitch. Fait que je suis Seinfeld.
Ouais, t'es Jerry.
Je suis Jerry. Puis je regarde la scène, puis je sais que je suis Jerry. En le faisant.
Puis t'es comme: j'espère que le gars rentre pas avec sa petite fille qui est trop sexy, puis George la check out. J'espère que ça.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
C'est drôle que tu dis ça parce que moi, je pitchais une fois pour une compagnie québécoise, puis le reste, c'est tout d'américain. Puis j'ai vu la différence, mais j'ai jamais comme eu... le moment où je peux m'asseoir comme avec toi pour en discuter. Mais tu as raison. Moi, après mon pitch avec une compagnie, je ne vais pas dire ben, d'ici, j'étais comme, hein, c'est, ça, c'était bizarre. Je ne veux rien faire avec eux. Ils étaient vraiment weird. Ils voulaient tout changer. C'était même pas la même idée. Puis j'étais comme, mais non, tu n'as pas besoin de moi si tu veux faire ça. Puis les Américains, c'était le contraire, mais c'était vite. C'était, t'es ici, le lendemain, yo, peux-tu sauter sur une Zoom, t'es avec eux, puis j'étais comme, OK, c'est plus professionnel. Puis eux, dès qu'ils comprennent le concept, ils veulent vraiment que toi, tu pousses ce concept-là. C'est pas, on aime ta face, on va faire quelque chose de complètement différent. Ils sont comme, non, si on parle, c'est à cause de cette affaire-là que tu viens de nous amener. J'aime ça. Ça me fait peur de faire quelque chose au Québec parce que je veux pas que je suis excité à propos d'un projet. Puis ils sont comme, OK, ça va commencer dans 6 ans.
Exact. Ouais. Ben, en tout cas, je souhaite que quelqu'un nous écoute puis qu'il y a des super bonnes idées de télé. S'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment puis qui apprend juste ça puis qui fait pas l'erreur que j'ai faite quand j'étais à... Je pitch, tu vas le savoir, toi. C'est que je pitch autour de la table puis j'essayais de ne pas parler parce que mon anglais est moins bon que tout le monde puis je suis pas écœurant, fait que... Je voulais pas discuter. Jason, il pitch super bien. L'autre gars aussi. Fait que, tu sais, j'étais là comme si on me demande de quoi sur le concept original, je suis là. Fait que j'essayais de parler, là. Je prenais pas le lead, là. Fait que là, à un moment donné, il me pose une question, tu sais, basée sur les pêcheurs version québécoise, tu sais. Puis là, ils me disent, parce que les pêcheurs, à la base, le pitch à Radio-Canada, c'est... Le pitch de base, c'est trois humoristes dans un chalet. Trois humoristes connus dans un chalet. Puis c'est trippant au Québec parce que c'est, OK, juste trois personnages. Tu sais, ils parlent tout de suite, ils sont en mode budget. Tout de suite, ici, c'est comme, combien ça coûte? Ça coûte pas cher, mais ça coûte une fortune pour différentes raisons. Ouais. On était sur le bord d'un lac, puis... tourner d'un lac. Tout ça est compliqué, mais pendant 2 secondes, ça a l'air pas cher. Fait que là, c'était comme, all right, ça va bien.
Faisable.
Ça va bien. Ah ouais, vous êtes trois, c'est pas trop. C'est tout ça. Puis moi, je pense que c'est l'affaire qui est forte de ma série. C'est créer des histoires fortes avec trois personnes, avec une méga contrainte. Tu sais, pas d'autoroute. Pas de car chase, pas d'hélicoptère, pas de « il faut aller chez Costco », tu sais. Pas de ville, tu sais, c'est un chalet, puis tout ça. Moi, je pense que c'est la force de ma série.
Mais t'as...
Et ils me disent, non, mais ils me disent, ils disent, ton univers, la personne responsable de la programmation, dit, ton univers, c'est ça. Y a-tu du monde dans le village? Oui, y a du monde dans le village, mais tu sais... Puis effectivement, dans la série, il y a le quincailler de temps en temps, peut-être un peu un facteur, tu sais, on sent le village, là, il n'est pas tout seul. Mais je dis non. Je dis, il n'y a pas de monde dans le village, tu sais. Puis là, je suis affirmatif. Je fais non. Il n'y a pas de village. Je te rassure, personne dans le village. Mais je vois sa face changer. Puis je vois une perte d'intérêt.
Oh!
Tu sais, ce qui est écœurant au Québec, ce que je viens de dire, tu sais, je voyais dans les yeux le monde, c'est comme, all right, OK, parce qu'il n'y a pas d'autres personnages, ça, c'est juste, tu sais. Puis là, je vois exactement la face différente. Puis dans un pitch, la face est importante. Tu fais juste essayer de séduire quelqu'un puis de l'intéresser à ton affaire. Puis je vois la perte d'intérêt. Puis je focus à la personne. Puis là, je zoom out. Puis en arrière d'elle, t'as... L'affaire de zombies, là. La série sur les zombies, là.
Oh, Walking Dead?
Walking Dead!
Oh, ouais, tous les concepts, puis tous les... Ouais, c'est ça.
C'est la...
Les spin-offs.
Ben, c'est ça. C'est la chaîne qui produit Walking Dead. Puis en arrière d'elle, c'est Walking Dead 4 ou Walking Dead 5.
Oh.
Puis t'as tous les zombies, puis je réalise que Walking Dead, si tu dis, ah ouais, Walking Dead, c'est bon, il y a 2 zombies... Elle a fait « The fuck, ta série? » On veut voir plein de zombies, Chris, puis plein de personnages. Elle me demandait, ça pourrait-tu être plus gros, ton affaire? C'est ça qu'elle me disait.
Ouais, puis toi, t'étais comme « Non! »
Puis moi, je disais « Non, c'est super! » Il y en a pas, mais... Là, il est trop tard, j'ai vu sa affaire, je peux pas revenir en arrière, mais il pourrait avoir une... Tu sais, je me suis mis le pied dans la bouche en disant « Ah non, je suis aux États-Unis. Ils n'ont pas de contraintes budgétaires. Mm. » Il n'y en avait pas de bug pour elle. Elle, tu te dis « Oui, Chris, il y a toute une ville. » Puis là, elle aurait fait « Ah, ah, on va te meubler ça. » Puis là, j'ai fait « Ah, OK. » Fox, on n'est pas dans le même univers. On avait effectivement, en 3 semaines de préparation, jamais parlé d'argent. Jamais, ouais, jamais, jamais.
C'est ta raison.
Après 1 minute au Québec, on parlait de cash. Là-bas, il n'y avait jamais une discussion sur l'argent. À un moment donné, pas vite, il y en a qui me sont regardés. Combien on les amène? Première classe, tout le monde.
Fox, c'est vrai.
Jamais parlé d'argent.
Ouais, je viens de me rendre compte, ouais, dans mon meeting ici, ouais, c'était dans les premières, même pas 20 minutes,
ouais,
qu'est-ce que tu penses, le budget, puis qu'est-ce qu'on a besoin, puis ils m'ont jamais demandé ça, puis ils s'en foutaient,
exact,
les Américains. Oh, shit, c'est vrai, ouais.
Ils parlent jamais d'argent.
Ils vont le faire. S'ils aiment le projet, ils sont qu'ils vont. Ils savent que, écoute, quand on va organiser puis on va avoir un budget, ça va être un budget qui a du sens puis on va faire de l'argent. Ils savent ça déjà.
C'est ça.
Alors, ils veulent que ça soit un projet intéressant.
Exactement.
Ah.
Ils sont pas dans les. Puis après ça, quand j'ai. Mais j'ai pas répondu à ta question.
Ouais.
Tout ça, c'est la phase 1 des pêcheurs. La phase 2 est beaucoup plus simple. Le projet a fait le tour de Los Angeles une fois. Fait que tout le monde l'a vu. Fait qu'il est connu. Puis, tu peux pas repitcher 6 mois après avec quelqu'un d'autre. Fait qu'on a attendu 2 ans et demi, 3 ans. Moi, dans ma tête, c'est encore une fois, c'est mort. Puis, puis après ça, je reçois un call. Il y a du monde encore qui cherche un projet. Puis là, autour de la table, mon agent était capable de ramasser autour de la table du monde, dont Bert Crusher. Puis, Bert, tous les projets fonctionnent quand tu as une vedette qui est attachée au projet et qui veut que ça marche.
Ouais.
Parce que quand même que tu as le réalisateur, le writer, si tu n'as pas la vedette, ton projet peut rester là, ça peut rester flou pendant 15 ans. Mais quand tu as la vedette, c'est ça, c'est ce qui fait la différence. Puis si on a eu Delivery Man rapidement, c'est parce que Vince Vaughn se cherchait un projet. C'est tout le temps ça. Fait que là, Bird Crusher... Il venait comme avec un intérêt de Netflix. Puis dans le fond, il cherchait quoi faire.
Avec lui.
Puis au départ, le projet a shifté parce que au départ, moi, c'est scripté, les pêcheurs. Tu sais, c'est des scénarios. Fait que c'est parti comme pour faire une adaptation des pêcheurs. Puis c'est devenu unscripted. Puis il aurait pu faire, hey, gars, je te parle plus, tu sais. Ça change tellement. La version Netflix est tellement différente de la version québécoise. Il aurait pu ne pas être chic puis faire comme, hey, sais-tu, ça ressemble tellement plus à ton affaire que, yeah,
on s'en fout.
Tu seras pas là-dessus. Mais il a été vraiment classe. Il a pris bizarrement tout l'univers esthétique. Il a reproduit le chalet. Quand je suis arrivé là-bas, puis j'ai vu leur chalet, je capotais. C'était vraiment le chalet du Québec. On me fait, là.
Uh-huh.
Mais j'en revenais pas. J'y avais respecté l'univers le plus possible, l'univers, le look, l'ambiance. Il l'a filmé complètement différemment. C'était plus scripté. Mais ça restait deux chums avec qui il faisait des affaires. Fait que c'était très, très, très différent au niveau du résultat. Mais il a reconnu que, puisqu'on avait travaillé pendant des mois et des mois ensemble sur essayer d'en faire une version comme au Québec, puis du moment que tu décides que tu es moins à l'aise à jouer des textes, mais plus à l'aise à improviser, bien là, c'est sûr que ça crée un shift. Mais on est resté dans le projet ensemble. Fait qu'il était chic. Je suis allé à Los Angeles, j'ai assisté au tournage. Il était super gentil avec moi. Un chic type. Ils ont été vraiment classe. Fait que même s'ils savaient que ça me faisait quand même de quoi que le résultat soit si différent, mais en même temps, je l'ai fait ma série. J'ai écrit mes scénarios. J'ai fait exactement la série que moi je voulais faire. Fait que c'est correct de voir. Parce que si ça avait été meilleur, c'était juste différent. Puis puisqu'ils l'ont pas renouvelé, T'sais, on ne le saura jamais. Mais si ça avait été meilleur, j'aurais juste été j'aurais été content de voir qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Parce que moi aussi, la réflexion, la version Bird Crusher des pêcheurs, je l'ai réfléchi, moi, il y a 10 ans quand même.
Pas de script, juste...
J'avais les deux options, j'avais les deux chemins, moi aussi. Je me disais, j'invite-tu mes chums dans un chalet, puis on déconne, puis on monte ça après, ou j'écris tout d'avance, puis je contrôle tout. T'sais. J'avais deux choix, là. T'sais. Puis j'ai processé dans mon cerveau, j'ai fait du rendering de ce que ça donnerait les deux, puis j'ai choisi celle-là. T'sais. Mais je trouvais ça intéressant d'explorer l'autre, c'est une belle occasion. T'sais.
Ça, c'est quelque chose qu'on ne discute pas beaucoup, mais de donner ton idée, parce que tu as touché sur quelque chose quand tu as dit « ça pouvait me rendre heureux, si c'était meilleur, ça m'aurait... » Mais il y a toujours cette peur-là qu'ils prennent, qu'est-ce que toi, tu as créé ton bébé, ils te le changent trop, puis même si tu es impliqué dans ça, tu es un peu triste parce que tu es comme « est-ce que vous respectez pas mon idée? » Mais eux, c'était comme un peu le contraire. Oui, respecter, ils ont même essayé le plus possible, mais ils voulaient aller la direction de post-scripté. Mais tu as vu que peut-être les années que toi, tu faisais du rendering, toi, tu avais raison. Parce que si t'es pas renouvelé avec son script, mais ton show à toi, l'original, c'est hyper populaire. Alors, tu vois comment c'est comme, OK, vous avez pris ces libertés-là. Ouais. Peut-être moi, j'avais raison depuis le début.
Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai appris quelque chose. Quand, tu sais, c'est quand on a fait Starbucks au Québec, puis on a fait Deliveryman aux États-Unis, puisqu'on l'a fait à l'identique, j'ai pas vécu un thrill artistique. Parce que c'était exactement le même film, avec des acteurs différents. Fait que, puisque le film est tellement identique, j'avais pas le plaisir artistique de dire « All right, ça continue, ça oomph, ça... » Tu sais, il a été fait d'une façon.
Ouais.
Pourquoi refaire chaque affaire de la même façon? En tout cas, c'est intéressant à plein de niveaux, une adaptation américaine, mais à l'identique, j'ai pas appris comme artiste parce que c'est le même scénario qui a été refait à l'écran. Alors que là, j'ai appris. T'sais, la version multicaméra improvisée de Crusher versus les pêcheurs Québec, j'ai vu son tournage, j'ai vu comment lui l'a fait, j'ai vu toute l'équipe travailler, j'ai vu le résultat, j'ai appris énormément. Que comment ça se fait de cette façon-là, puis j'ai validé mon intuition, puis je pense que mon intuition était bonne. Ça aurait été moins cher au Québec de le faire de sa façon à lui. Mais je pense que ça valait la peine. J'ai appris comme artiste. Quand je fais un projet, puis j'apprends comme artiste, bien, cet apprentissage-là, moi, je grandis, puis je fais ce métier-là parce que j'aime apprendre. Sinon, je ferais pas ce métier-là. Fait que c'est une occasion d'apprendre. Si tu refais à l'identique, si ta mission, c'est de refaire à l'identique le projet, c'est sûr que tu n'apprendras rien. Tu viens de décider que tu n'apprendras rien. Fait que si tu me donnais un film français puis tu dis « Fais-les au Québec », ma première condition, ça veut dire « Je peux-tu jouer dedans comme ça me tente? » Puis c'est pas pour le défaire le projet, mais il faut que je sois capable de l'adapter. Je ne veux pas avoir l'auteur français qui commence à faire « Non, 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 non. Ben non, mais c'est pas ça. Ben c'est sûr que ce sera pas ça. C'est une adaptation.
Ouais.
Si je fais juste... T'sais, c'est ça. T'sais, à un moment donné, il faut que le créateur se détache de ça. Parce que si moi, si j'avais été à tous les jours au meeting, le projet serait pas fait. J'aurais dit à tout le monde, ben non, mais c'était pas ça, mon affaire.
Ouais,
ça sert à quoi?
Tu dois être ouvert à ça.
Ben, je suis pas... C'est ça. Je suis pas fermé à... Du moment que tu l'as fait comme toi, ça te tentait, quelqu'un reprend une toune de quelqu'un d'autre, quand il le fait à l'identique, tu es tout le temps déçu. Tu te dis, ben oui, mais tu chantes pas aussi bien que Paul McCartney. Pourquoi tu as chanté yesterday pareil?
Mais des fois, tu sais pas. Tu sais quelle chance moi j'avais pris? Dis-moi si tu aurais fait la même affaire que moi. En 2018 ou 19, peut-être c'était 19, c'est quand j'avais rencontré mon premier gérant. C'était pas mon gérant dans le temps, mais Michel Grignet avait parlé avec lui parce que lui avait besoin de quelqu'un. Il y avait une script. C'était un film belge. Ils ont eu des acteurs attachés, alors ils voulaient le faire à l'américain, mais ils voulaient le traduire. ils ont traduit, il y avait comme quelqu'un qui travaillait sur X-Men 2, comme il y avait des, ouais, des bons quand même auteurs, mais il manquait de quoi, ils m'ont dit, du punch. Alors finalement, ils m'ont trouvé, puis ils m'ont dit, hey, peux-tu prendre ça, puis t'as juste à mettre des punch, juste le rendre un peu plus drôle. Alors moi, j'étais comme, ouais, je peux. Je commençais à lire le script, puis j'ai vu que c'était un peu mal écrit. C'est comme, ils ont traduit directement, il y avait des choses qui se fait pas, puis ça, ça se dit pas aux États-Unis. C'est pas américain. Alors moi, je commençais à changer plein d'affaires, OK? Oui, j'ai mis des punchs, c'était drôle, mais j'ai changé beaucoup d'affaires.
Oui, le contexte pour rendre le punch.
Puis des choses que ça se dit pas. Ouais. Ça se dit, il y a certains mots qu'on va pas dire au Québec. Alors si c'est un film qui est basé au Québec, puis quelqu'un voit ça comme, écoute, c'est pas québécois, on va pas dire corner store, on va dire dépanneur, tu sais, des petites, ouais, affaires comme ça. Alors j'ai changé plein de choses, puis moi je pensais, ah là, ça c'est un script. Puis j'avais juste, c'était comme deux jours ou whatever, puis j'avais changé tout le script. Alors j'envoie ça, puis le gars qui est devenu mon manager dans le temps, mais plus maintenant, il était comme, pourquoi est-ce que le numéro de page est différent? Puis je dis, écoute, je vais dire la vérité. Je lis le script. Il y a un bon concept, mais c'était de la merde. Ça marche pas. J'ai réécrit tout ton script, je dis. Puis il dit, mais je peux pas donner comme ça, ils vont être insultés. Je dis, écoute, s'ils sont insultés, gratuitement, je vais juste faire les punchs, puis tout, mais c'est gratuit. Je donnais ça, vous allez me payer le même montant qu'au début. Je vais juste refaire toutes les punchs, ça va prendre même pas une journée. Mais je te dis, je pense que ce script-là est meilleur. Lui était fâché puis choqué, mais après il commençait à penser, il lit puis dit, comment est-ce que tu as réécrit toute une script dans deux jours? Ça lui aurait pris des mois. Je dis, parce que c'est ça que je fais, c'est, je rentre, ouais, dans le zone puis c'est fini pour tout le monde. Il leur donne le script puis moi je tendais pour voir une meeting. Il dit, ouais, il veut te voir en meeting, on a fait le zoom. Puis là, moi j'avais peur, tu sais. Puis le gars était comme, oh, c'est bon, maintenant ça marche. Oh, merci de faire ça. T'sais. Puis j'étais comme, oh fuck. Puis, wow. Ouais, le gars était comme, tu sais pas quelle chance t'as pris parce que c'était même mon nom. Tu sais, le gars avait peur parce que c'est insultant. Puis en plus, c'est comme, tu comprends pas, on t'avait demandé de faire quelque chose assez simple. Puis toi, t'as réécrit tout le script. Mais à cause de ça, ça m'a donné plein de connexions, plein de jobs après, puis tout ça. Parce que bon, c'est un grand gamble, mais écoute, tu sais, ouais, quand tu lis quelque chose, puis t'es comme, t'as quelque chose ici, mais t'es pas assez professionnel à le rendre bon. Ou les gens qui avaient payé, je pense qu'ils s'en foutaient. Ils traduisaient vraiment comme Google. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, ouais, utilisé. C'était vraiment basique. Alors moi, j'ai fait tout ça. Puis à cause de ça, ça a ouvert plein de portes après parce que le monde a su, oh shit, lui, il peut écrire. Puis il n'a pas besoin de beaucoup de temps. Tu lui donnes quelque chose, puis il le fait. Alors j'ai pris un gamble, puis ça m'a rendu, tu sais, assez heureux après. Mais c'est une grande chance que j'ai pris, man.
Bravo. Ouais, t'as pris une chance. C'est un gutsy move. Puis de tous les auteurs que je connais, my God, j'en connais pas beaucoup qui auraient fait, ah, mais, ouais, parce qu'il était pas bon de toute façon.
Ouais, si tu vois les deux versions.
C'est ça.
Ouais.
C'est que si la personne, moi, elle sait qu'elle est pas bonne, puis des bons scénaristes, il y en a pas tant que ça. Mm-mm. Fait que tu réalises que si la personne au moins est capable d'admettre qu'elle est pas bonne, fuck, tu peux rentrer dedans, tu sais.
Puis moi, je savais même pas qu'il n'aimait pas, mais moi, je l'aimais
c'est
pas.
C'est le problème. Tu sais que Denis Arcand, j'ai tourné avec sur la dernière saison des Pêcheurs, puis c'est vraiment une idole, là, Denis Arcand. Là. Puis je voulais tourner avec Denis Arcand, fait que j'ai écrit, je pense, un de mes derniers épisodes, puis j'ai réussi à avoir son contact, là, tu sais, puis là, j'ai demandé, tu jouerais-tu une scène? Parce qu'il y a une tradition au cinéma américain, au cinéma français, puis au cinéma québécois, que les réalisateurs qui s'aiment bien entre eux se mettent dans leur propre film.
Ouais.
Dans cette tradition-là, moi, j'ai mis beaucoup d'auteurs québécois dans Les Pêcheurs, dans des petits rôles, joueurs de baseball, tout ça. Tu sais, plein d'auteurs que tu vois jamais, qui travaillent dans l'ombre, puis qui ont vécu une journée de tournage, tu sais. Puis dans cet esprit-là, je dis, ah, je me paye-tu... Tu sais, dans la catégorie-là, je me paye-tu un trip? Denis Arcand. Fait que j'ai réussi à... Puis Denis Arcand, il dit, écoute, j'ai 80. Il dit, oui, mais écris-moi pas une page, un piano, là. Écris-moi pas une page pleine de textes, il faut que j'apprenne par cœur, tu sais. Fait que j'ai gardé ça bien, bien simple, back and forth, une scène avec lui, puis tout ça pour dire qu'on travaille ensemble.
T'as trippé sur ça?
Mais il m'explique son parcours, puis il m'a donné une anecdote, il dit, je sais pas pourquoi on est parti là-dessus, mais sa première job, puis je pense que je l'ai jamais vu dire ça en entrevue, je trouve que c'est important pour tous les métiers artistiques. C'est que ça, une de ses premières... Lui, il a travaillé à l'ONF. Fait que ses premiers films, noir et blanc, travaillait. Tu sais, il était sur le staff de l'ONF. Je sais pas comment ça marchait, là. Tu sais, tu étais voir 5-6 réalisateurs, puis ta job, c'était d'aller faire des films. Fait que souvent des reportages sur les pêcheurs de crabes au Nouveau-Brunswick. Je sais pas. Mais une de mes jobs l'été, c'est pendant un an, c'était de recevoir des scénarios puis de lire des scénarios. Puis t'imagines, les scénarios en ce moment sont majoritairement pas bons. Fait que à une époque où le monde savait encore moins écrire des scénarios, ça devait être atroce.
Oh.
Les meilleurs scénarios québécois, là, des années 60, là, c'était deux filles en bobette qui vivent des aventures à la maison. Tu sais, c'est pas des gros scénarios, là. Fait qu'il a dû lire de la merde. Puis ça a été sa meilleure école. Puis il m'a fait réfléchir sur comment moi j'ai appris mon métier. Parce que tu te rends pas compte, tu sais, quand en humour, va dans une soirée open mic, les open micers, là, ils se tiennent entre eux autres. Ils voient des mauvais open micers. Qu'est-ce qu'ils voient, là? S'il y en a un qui est très, très bon, il revient plus. Parce qu'il s'en va tout de suite jouer pour le club. Mm. Fait que, pas que tu vois des pas bons, mais tu vois du monde faire énormément d'erreurs.
Ouais.
Puis là, tu vois des erreurs, des erreurs, des erreurs, des erreurs. Lui, il parle pas assez fort. Lui, il parle tout croche. Lui, je comprends rien. L'autre, je comprends son gang, mais son setup est pas clair. L'autre, ça fait deux fois qu'il fait le même punch. Tu sais, les 1 million d'erreurs possibles, tes voix, puis ton cerveau fait « Faut pas faire ça, faut pas faire ça. » Fait que Denis Arcan, qui est un de nos meilleurs scénaristes, au niveau scénaristique, là, c'est impeccable. C'est une précision académique. Là. Il fait ses affaires. C'est jamais pas clair, un scénario de Denis Arcan. Puis c'est jamais... Si t'aimes pas ce film de Denis Arcan-là, tu peux pas dire qu'il a été mal écrit. Jamais.
C'est juste, c'est pas pour toi.
C'est pas pour... C'était peut-être trop ambitieux, telle affaire, toi, mais c'est jamais mal fait. C'est jamais mal réalisé, puis c'est jamais mal écrit. Parce que le gars, il maîtrise l'art de comment écrire un scénario clair. Puis là, mais il a appris, il n'y a pas d'école de scénarisation à l'époque. Fait que son école, ça a été de lire des mauvais scénarios.
Meilleure école. C'est la meilleure école. Parce que tu sais vraiment, tu comprends pourquoi c'est de la merde. C'est comme nous, la meilleure école, c'est les open mic.
Ça fait mal. Un gag qui marche pas, ça fait tellement mal. Quand t'es humoriste, si ça te fait pas mal, t'es pas un humoriste.
Non, non. Moi, ça me détruit.
T'es un spectateur d'humour, puis c'est parfait. Mais quand ça te fait mal, puis quand t'as l'empathie pour le gars sur la scène, c'est en dedans de toi, t'as une graine d'humoriste là, qui fait comme... Puis là, tu fais comme, oh non, man, oh fuck, oh fuck. Puis quand tu vois, puis quand tu commences à te percevoir pourquoi la personne a raté son gag... Tu commences à être un humoriste.
T'avais pas besoin de créer le N-word. T'avais pas besoin de ça.
Ouais, t'as gelé la salle.
Ça faisait rien pour la blague. C'est fucking...
Ce que j'ai pensé hier, je me suis rendu compte que la différence entre un humoriste qui est au sommet de son art puis un humoriste qui commence, c'est 17 secondes par jour.
Explique ça.
Le sourire du gars qui aime sa théorie. J'espère qu'elle est bonne. C'est que je me suis amusé pendant une demi-heure hier parce que j'ai fini, je t'avais compté, j'ai commencé mon show à l'écrire début septembre, puis là, je l'enchaîne pour la première fois début décembre, puis ça n'a jamais été aussi rapide dans mon cas, tu sais. Puis là, je suis comme 4-5 mois à l'avance. Fait que là, pour le fun, j'ai rien à faire, je calcule le nombre de tant que ça m'a pris par jour pour arriver à mon nombre de minutes. Puis je calcule que j'ai pas commencé le 1er septembre, j'avais des notes partout là, chez nous. Là. Fait que je préfigure le nombre de mois. Je calcule le nombre de journées, combien de matériel j'ai. Puis j'arrive à... C'est comme si à chaque journée de travail que j'ai faite sur le show, j'ai pondu 20 secondes de matériel. Tu comprends?
Ouais.
Fait que, tu sais, un show, c'est 80 minutes. Fait que j'ai divisé 80 minutes fois le nombre de secondes divisé par le nombre de journées que ça m'a pris. Puis j'arrive que chaque journée complète de travail d'écriture, au final, j'ai rajouté à chaque jour, 20 secondes dans mon one-man show.
Mais tu sais, comme tu me disais que c'est... Parce que honnêtement, c'est trop vite. Mais c'est pas trop vite si ça marche.
Mais c'est, 20, c'est 20 secondes. Ça... J'ai jamais roulé à cette vitesse-là.
Quand mais moi, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui peut rouler.
Non, mais quand j'étais dans la relève...
Ouais. C'était combien?
Mettons, la première année où j'étais un humoriste à temps plein, donc j'ai aucune autre excuse. Je suis pas supposé jouer au PlayStation. Ouais. Je suis pas supposé faire whatever d'autres choses que ça. Je fais plein d'autres affaires. Mais j'évalue mon efficacité et voilà. Il n'y a aucune bonne raison de ne pas faire mon métier. Là. C'est ça que je fais à temps plein. Puis tu produis l'équivalent d'un bon numéro de gala par année, mais tu n'es pas le... C'est pas le meilleur numéro de gala. Là. T'es un numéro de gala. Là. Mettons que c'est le standard pour dire que le numéro était bon. Là. J'avais pas deux. Quand je faisais des galas au début, quand j'ai commencé, je n'avais pas deux numbers de gala. Là. J'avais un number de gala, puis il n'y avait plus rien après. Là. Après ça, c'était juste moins bon. Là. Puis là, si je divise le résultat de mon année de travail par le nombre de journées de travail, j'avais contribué donc à 2,5 secondes ou 2,3 secondes par jour de travail.
Est-ce que tu penses que c'est l'efficacité ou l'expérience?
Les deux. Les deux, peu importe la raison. T'sais, peu importe la raison, parce qu'elle est différente pour tout le monde. Il y en a qui a fallu qu'ils arrêtent de boire, il y en a qui a fallu qu'ils s'achètent un bureau, il y en a qui... Peu importe les raisons qui t'empêchent d'être créatif, c'est sûr l'expérience, mais il y a plein d'autres raisons. Ben, entre 20 secondes puis 2 points. La différence,
c'est énorme.
C'est 17 secondes.
Oui, mais ça, c'est énorme.
C'est la différence entre moi quand j'ai commencé puis moi aujourd'hui, c'est 17 secondes par jour.
Est-ce que tu sais comment ça, c'est énorme?
Ben oui, c'est énorme.
C'est absurdement.
C'est minuscule.
C'est minuscule si tu. Mais c'est comme si quelqu'un dit 0 to 60 dans 1 second. Tu vois, 1 seconde, c'est quoi ça? Non, non. La vitesse de qu'est-ce que tu fais dans une seconde, c'est ça qui est impressionnant.
C'est ça.
Comme tu m'as... Puis c'était pas juste... Qui était là? C'était-tu Emile qui était comme 5 mois? Comme c'est quand même fucking... Ça se fait pas habituellement. Puis si tu fais ça, tu t'es pas heureux, t'as comme j'ai besoin de changer. Mais comme toi, t'es déjà heureux, puis t'es comme, oh shit, j'ai quelque chose ici. C'est pour ça que c'est impressionnant. C'est toute une affaire. Parce que
notre métier, c'est pas d'écrire des one-man shows vite.
C'est pour ça que je te
dis. Donc ça n'a pas à être impressionnant par qui que ce soit. L'important, c'est le résultat. Le monde s'en fout si tu l'écris en 3 mois ou en 6.
Pour moi, ça m'impressionne parce que ça marche et tu es heureux avec. C'est ça qui me choque.
Mais pour toi, c'est ça. C'est parce que l'écriture, c'est un tunnel. Tu deviens obsédé de tes réflexions. Tu deviens obsédé de ton travail. Je suis pas sûr que j'aimerais vivre avec quelqu'un qui fait ce métier-là. D'auteur. C'est-à-dire, quand je suis dans mon tunnel, tu sais, je suis pas sûr que ma blonde a trippe sur je reviens tous les jours, puis là, j'ai fait ça, puis j'ai hâte de le compter à quelqu'un, fait que je le compte à ma blonde, tu sais, puis à un moment donné, elle fait comme hey, c'est à tous les jours, là. Tu sais, ça peut être lourd. Fait que si ce processus-là dure 9 mois, ça peut être très demandant pour quelqu'un qui est à côté de toi, tu sais. Ouais. Fait que je suis content pour ma vie, en général, que ce soit pas si long que ça. Maintenant, oui, je suis content que ça soit comme court, puis ça me fait du bien d'avoir mis en mots des idées qui m'obsèdent, parce que là, tu viens, t'obsèdes sur des réflexions, tu sais. Tu sais, mon show, il parle de c'est quoi un adulte, parce que forcément, j'ai 2 adolescents. Fait que moi, j'essaie d'en faire des adultes. Fait qu'il faut que ma tête soit claire sur mes interventions avec mes enfants. Je veux les guider pour le monde des adultes. Puis je peux pas les guider vers quelque chose qui est fauné parce qu'ils vont le savoir. Fait qu'il faut que j'aille une réflexion claire de c'est quoi un adulte en 2023 puis comment ça se comporte un adulte si je veux les orienter. Sinon c'est n'importe quoi puis ils vont le savoir que je suis pas crédible. Fait que juste mettre des mots sur ça m'a tellement fait du bien. Fait que c'est pour ça que j'aime mon métier. Ça me fait du bien parce que je la partage. Puis là, je vois que tout le monde est d'accord avec moi. Puis tout le monde fait comme ça a du sens. Parfait. Fait que ça a du sens. Fait que je me couche le soir en me disant, OK, Fait que là, j'ai fait le ménage ici. J'ai été capable de le dire de façon suffisamment originale que probablement que ça fait du sens pour tout le monde. Fait que là, c'est satisfaisant au maximum.
Tu m'as dit quelque chose pendant la fin de semaine qui a resté avec moi, puis j'ai même discuté avec d'autres gens. Tu te souviens quand on parlait de les années de formation pour une personne, pour voir si ça va devenir une personne logique puis sociable, puis tout, c'est les premières 4 années, ouais. Puis c'était une recherche qui se fait ici au Québec.
Ouais.
Ça restait avec moi, tu sais, je parle avec plein de gens, c'est choquant. J'ai même parlé avec lui, j'avais dit, est-ce que tu sais, c'est les premières 4 années que tu dois former quelqu'un?
Ouais.
Alors, si tu n'es pas une vraie personne adulte, un parent qui va démontrer les limites, puis jouer, puis montrer c'est quoi avec un enfant de 4 ans, après ça commence à devenir difficile parce qu'il se développe. Ça, je pense, c'était quelque chose d'incroyable que tu m'avais dit dans l'âge à tout le monde, que pas beaucoup de monde y sache, parce qu'il y a ce débat-là de « non, tout le monde peut changer, tout le monde, tu peux ». Mais moi, j'ai connu plein de gens depuis qu'ils sont petits, leur vie chez eux n'était pas de meilleure vie. Puis n'importe quoi que tu leur donnes, comment tu essaies de leur parler, ils ne vont pas changer.
Ouais.
Mais je ne savais pas que c'était les premières 4 années. Moi, je pensais que c'était plus. Moi, je pensais que tu as jusqu'à comme 15 ans.
Ben, c'est-à-dire, je trouve que des fois, je trouve que l'être humain grandit comme un arbre. Tu sais, il y a des arbres qui sont chanceux, sont nés à bonne place. Le gland est tombé à bonne place dans la forêt. Puis sur un terrain plat. Puis il n'y a pas trop d'arbres à côté, pas trop de compétition. Puis là, ça pousse, puis ça trouve, tu sais, un arbre sans histoire. Puis les arbres fascinants, tu sais, ceux qui attirent notre attention, parce que celui-là, on ne le regarde pas malheureusement, parce qu'il est juste comme parfait.
Comme tous les autres.
Puis celui qu'on prend en photo, parce que c'est celui qui est sur le bord de la rivière, qui a poussé avec ça de terre pognée entre deux roches, puis qui est parti, puis qui est sorti de la forêt, puis qui est au-dessus du lac, puis là, après ça, quand il y a eu de... Il est remonté de même. Fait que la majorité de sa vie est normale, mais tu le vois que le début, là, pour aller chercher son spot, le tronc, puis ça, tu le changeras jamais. Tu sais, il peut se corriger le restant de sa vie comme ça, mais le départ, t'es jamais là, tu peux pas refaire ton tronc de base. Puis un être humain, tu peux pas refaire ton tronc de base. Fait que si t'as grandi dans un milieu, puis c'était à coup de taloche, puis il y avait pas d'amour, ben, cette roche-là dans ton soulier, tu vas l'avoir toute ta vie. C'est que tu vas apprendre à dealer avec.
Ouais.
Tu vas, le défi dans ta vie, ça va être de ne pas recréer un trou dans le soulier de quelqu'un d'autre. Ça va être ça ton défi. Mais tu ne pourras pas corriger ça. Fait que c'est pour ça que la petite enfance, c'est important, mais ça ne veut pas dire que... Mais tu peux aussi avoir une petite enfance parfaite, puis que génétiquement dans toi, il y a quelque chose de brisé qui fait que...
Rien ne peut t'aider.
C'est ça, tu vas, c'est dans ton code génétique maintenant ce qui va faire en sorte que tu vas l'échapper. Ouais. Mais la portion, c'est jamais 100%, c'est 50-50. Fait que l'entourage d'une personne, my God, est déterminante. Moi, c'est la seule affaire que je suis entièrement fier. C'est que moi, j'ai 2 enfants, puis sans tomber dans mon backstory, moi, mon défi à moi, c'était de ne pas reproduire le même backstory.
Moi aussi.
C'était moi, c'était ça. C'était ma chienne d'avoir des enfants. C'était de ne pas savoir comment piloter la patente puis atterrir à la même place. Je voulais pas atterrir à la même place. Je voulais pas que mes enfants recréent exactement ce que moi, j'avais vécu. Mais pour faire ça, tu peux pas juste dire « Ah, m'en faire le contraire. » Parce que les gens qui se disent « M'en faire le contraire de ce que je veux pas produire », tu refais la même crise d'affaires parce que c'est pas ça la technique. Tu sais, faut que t'ailles deep, tout mettre ça sur la table, puis reconstruire, puis accepter que tu vas, toi, ton tronc, il est parti de même, puis eux autres, leur tronc va partir peut-être idéalement différemment. Sont pas condamnés à revivre les mêmes affaires que toi, mais parce que c'est commun aux artistes, mais c'est commun à plein de monde. C'est comme un fantôme. C'est comme mes enfants ne voient pas le fantôme de que moi je vois tous les jours, à laquelle ce fantôme-là qui me regarde, voulant dire, tu sais, t'es pas mieux qu'un autre, je dis non, mais t'es mieux que toi. T'sais.
C'est tellement bien dit.
Puis
c'est tellement bien dit.
Mais eux autres, ils ne voient pas ce fantôme-là. Puis moi, je mesure mon succès tout le temps par rapport à quelque chose que personne ne peut voir. C'est de même que je mesure.
C'est tellement bien décrit.
Quand j'ai vu les gars de la poche bleue avec Mike, j'ai pensé à la discussion qu'on a eue sur apprendre à gérer tes émotions en bas de 4 ans. Je trouvais que c'était un exemple parmi tant d'autres de... Je voyais deux gars qui savent pas comment avoir du plaisir, comme des adultes. Je voyais deux grands enfants qui ont grandi dans un milieu de hockey, puis qui ont été valorisés quand ils comptaient des buts, mais qui n'ont pas appris à socialiser de façon normale, puis dans un contexte où ils ont senti la pression d'être drôles, ne savaient plus comment se comporter, puis se sont comportés comme des enfants de 3 ans. Avec d'autres enfants. Puis quand tu te chamailles avec des enfants, tu apprends à pas faire mal au monde. Puis ouais. Tu les voyais faire mal à Mike, puis pas pogner les cues visuels que Mike leur donnait. Hey, tu me fais mal, puis tu me rends inconfortable. C'est comme si ces deux gars qui n'ont pas joué à ça quand ils étaient jeunes, puis qui pognaient même pas les cues obvious de hey, le gars, il t'a le dit qu'il est pas bien. T'sais. C'est comme s'il n'avait pas appris à socialiser à tout ça. Pas des mauvaises personnes.
Non.
Mais tu voyais que j'avais plus l'impression de voir des enfants de 3 ans et demi se comporter dans des corps d'adultes.
Ouais.
C'est ça qui. C'est difficile à le mettre dans la bonne case, là. Puis c'est ça.
Mais je pense que tu l'as bien décrit. Puis t'as une manière de faire ça, comme dans ton écriture, puis la manière que tu parles. Tu décris les choses très, très bien.
Merci.
Ouais, c'est fascinant, j'adore
pas
ça.
Pas tout le temps.
Comme c'est tout ça, le monde. Je dis, tu sais comment. C'est...
Ouais.
Parce que ça résonne avec moi. Spécialement le fantôme à côté, c'est juste toi que tu le vois, puis tu te compares juste à cette. Et tu le disais, puis j'étais comme, ah, je comprends exactement, tu sais.
Ça fait pas longtemps que je le vois comme ça, mais ouais. Quand t'as. C'est ça. Quand t'es. Puis tu peux pas expliquer à tes enfants. Tu sais, quand tu dis à tes enfants, là, la phrase qui sert absolument à rien, je pense, c'est. J'avais. Tout ce que t'as là, je l'avais pas, là. Hey, que ça n'a pas de sens pour un enfant.
Ils savent pas de quoi tu parles.
Mais pourquoi je saurais de quoi tu parles? Toi puis tous mes descendants depuis 20 000 ans, moi non plus, je le sais pas. Ouais. Ce que mon grand-père avait pas que moi j'ai, là. Il me dirait la même affaire, puis j'aurais la même réaction de « C'est pas moi ce que t'as vécu, c'est une ferme. » J'ai aucune crise d'idée, puis je suis pas capable de l'imaginer. En vieillissant, t'imagines de mieux en mieux, mais jeune, t'es incapable d'imaginer quoi que ce soit. Fait que ça, c'est.
Puis tu devrais même pas.
Tu devrais pas être essayé d'imaginer quelque chose que t'es pas capable d'imaginer.
Ouais.
Fait que ça sert à rien de leur dire. Fait que c'est ça. Je peux pas dire à mes enfants, gars, moi, je vais vous décrire, puis que je veux pas que vous. Non. Tu sais, c'est tout seul. C'est tout seul dans le silence avec toi-même, puis tes peurs.
C'est une guerre solo.
Puis tu regardes grandir, puis là, tu regardes le tronc, puis là, mener. Puis à 14, 15, 16 ans, ce qui est le fun, ce que je vis en ce moment, c'est. T'es comment. Je sais pas combien haut ça va pousser mes gars, mais le tronc est beau, tu sais, c'est bien parti, ça a pas l'air.
De dévier droit.
Ils peuvent faire des twists, mais je sais que c'est plus important la partie du bas. Tu sais, ça va. C'est ça. Peu importe ce que la vie va leur lancer comme condition atmosphérique ou environnementale, ils ont ça, tu sais.
C'est très, très bien dit.
Parce que, ouais, c'est ça. Parce qu'on connaît tous ça.
Oh, puis avant que j'oublie, t'as-tu des projets que tu veux pousser? T'as-tu quelque chose que tu veux dire au monde pour qu'ils te suivent? Puis on veut partager ça.
Ben, s'il y a des gens qui sont curieux, je commence le rodage de mon 5e one-man show. Fait que là, cette affaire-là.
Ce
dont on vient de parler, là, tu sais, sur mon site. Je commence au bordel. Je fais des enchaînements d'une heure et quart, puis là, je vais en faire un petit peu partout. Puis. C'est pas mal ça, tu sais. J'ai-tu d'autres choses? Non, le reste, je m'en vais à mon bureau écrire d'autres affaires. Mais ça, c'est ongoing pour les deux prochaines années. Là.
OK. Puis tes liens sont déjà dans la description, alors c'est facile pour le monde. Si vous ne suivez pas Martin déjà,
c'est pas super facile.
C'est si facile.
T'es pas à un clic. C'est tellement, je mets tellement pas d'énergie là. T'es à deux clics.
C'est pour ça que je mets tout. Tu vas cliquer description, puis après, tu cliques sur le lien que tu veux.
C'est ça, exactement.
Ah, t'es à deux clics de Martin. Mais Martin, honnêtement, merci pour ça. C'était une entrevue vraiment, vraiment intéressante pour moi.
Merci.
J'adorais ça. Puis, merci à vous.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.